18-19, le magazine.
Bonsoir, bienvenue dans Onde Noire, l'émission
la plus rock,
la mission polar la plus rock de la bande FM.
Présentée par Jacques
et Corinne.
Eh bien, ça commence bien. Bonsoir tout le monde, et nous avons ce soir la joie d'accueillir Sophie Loubière. Sophie Loubière, bonsoir.
Bonsoir Corinne.
Merci beaucoup de vous être libérée, parce que je sais que vous avez un emploi du temps très très chargé. Donc une très très petite, une courte présentation. Vous êtes productrice d'une émission sur France Inter, d'une émission littéraire, le vendredi soir, qui s'appelle Parking de nuit. Vous êtes, en tant que passionnée de musique de film, vous faites une chronique à France Info qui s'appelle Musique de film.
Voilà, tout simplement.
C'est simple. Et puis, je crois que vous animez aussi une émission sur Cuisine TV qui s'appelle Les dossiers de la bouffe.
Ah ben ça, hélas, je suis depuis quelques années, mais j'ai effectivement participé au lancement de Cuisine TV et ça a été une très très belle expérience dans les médias.
Je dirais que, pour ne pas avoir tort, mon erreur sera constructive parce qu'on en reparlera pour le livre qui vient de sortir et qui s'appelle donc « Dans l'œil noir du corbeau » et qui est paru il y a peu de temps au Cherche Midi, éditeur à la collection Néo. Donc, c'est pas votre premier polar. Je crois que vous avez écrit à peu près 8 livres et 4 polars. C'est à peu près ça?
Voilà, c'est ça. 8 ouvrages et 4 polars, dont un recueil de nouvelles.
Oui, que je recommande parce que c'est un petit bijou. Ça s'appelle Petit polar à l'usage des grands. Et c'est chez Librio. J'espère que c'est toujours disponible. Je n'ai pas vérifié.
Ben non.
Bon.
Ben, Corinne.
À vos bouquinistes.
Malheureusement, Librio n'a pas jugé utile de réimprimer, puisqu'on a épuisé toute la première édition, qui a très très bien fonctionné, notamment sur un public ado-étudiant. D'ailleurs, le recueil avait reçu le prix de la meilleure nouvelle par la ville de Nanterre. Et voilà, c'est un petit point noir, je dirais, dans
ce polar.
Oui.
Ben, on va faire un petit appel aux éditeurs, on en connaît certains. Une réédition peut être souhaitable, c'est toujours intéressant. Donc dans ce dernier livre, on fait très vite la connaissance de deux personnages. Anne, française, la quarantaine. Et tout de suite, Bill, la soixantaine, ex-flic à San Francisco. Mais je vais vous laisser le soin de nous les présenter. C'est vous qui les avez inventés, vous les présenterez mieux que moi.
Je dirais que Anne, qu'on a un peu qualifiée rapidement de Bridget Jones sur la quatrième de couverture, est vraiment une femme de 40 ans très très commune. C'est-à-dire que elle fait partie de ces femmes qui n'a toujours pas trouvé chaussure à son pied, qui n'a pas réussi à construire de couple, qui n'a pas d'enfant, qui est mal dans sa peau, qui a un passé douloureux dont elle ne parvient pas à s'affranchir et qui a surtout vécu une histoire d'amour à la fois merveilleuse et destructrice dont elle ne peut pas s'affranchir et qui la hante, la bouleverse et à 40 ans, elle prend la décision de prendre l'avion comme on prend son bâton de pèlerin et de partir à la recherche de cet amour connu quand elle avait 16 ans sur des pistes de ski dans les Vosges en France.
Dans les Vosges. Et elle va donc faire la connaissance de Bill.
Bill,
d'un certain temps.
Voilà, alors Bill, c'est un jeune retraité de la police qui a pas mal roulé sa bosse dans les rues de San Francisco, qui a vécu tous les travers qu'un flic là-bas peut connaître, c'est-à-dire toucher un peu à tous les domaines, y compris à la corruption. C'est quelqu'un qui a bu, qui a été violent, qui n'a pas réussi à tenir son couple, qui malheureusement ne voit plus ses enfants. C'est pas un type très sympathique.
C'est une de mes prochaines questions d'ailleurs. Oui. Même Anne n'est pas très sympathique au début.
En fait, ce sont des personnages qui sont, excusez-moi de vous dire Corinne, mais qui sont comme nous, c'est-à-dire qu'ils sont très égoïstes. Ils ont envie de faire du bien autour d'eux, mais ils ont tellement mal en eux que dans certains domaines, il y a des limites. Et donc, ils sont pas généreux. Et ils pensent avant tout à eux. Et Bill, il pense avant tout à son bien-être, qu'il ne parvient pas à atteindre, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement déprimé, qui est au bord du suicide, parce qu'il n'y a rien dans sa vie. La seule chose qu'il a rempli, c'est c'est la bouffe. Et c'est ses fiches cuisine qu'elle regarde une fois par semaine à la télévision sur son houseboat à Sausalito au bord de l'océan.
Et on peut dire aussi de la même manière, Cannes est certainement aussi un peu au bord du suicide. Et la seule chose qui peut encore lui donner un espoir, c'est d'aller retrouver son amour de jeunesse à San Francisco. Donc.
Voilà, c'est-à-dire qu'on a deux personnes assez désespérées, antipathiques dans la mesure où on voit pas ce qu'on pourrait leur trouver de sauvable, parce que ce qui les intéresse avant tout, c'est leur propre quête, et qui sont des gens qui sont fermés, refermés sur eux-mêmes, mais on découvre, je pense, au fil des pages, qu'il y a une grande générosité, un grand besoin d'amour, et un besoin de partage qui va être transcendé par une rencontre.
Alors, tout à l'heure, vous avez dit que c'est des gens comme nous. Moi, je veux bien qu'ils... Mais Anne, elle est surtout un peu comme vous, parce que elle est journaliste, je dirais pas à votre âge, mais elle est aussi passionnée de cuisine, vous êtes passionnée de cuisine, elle présente une émission de cuisine, vous avez présenté une émission de cuisine. C'était intéressant d'avoir un personnage qui avait quelques points communs avec sa créatrice.
Oui, ce qui se passe, c'est que Anne est un personnage que je travaille depuis des années et que je porte en moi et que j'ai essayé d'évoquer déjà dans un premier roman, qui n'était pas un roman noir, qui s'intitule « Un garçon au bord des lèvres » et dans lequel je faisais le récit au travers de ce personnage de ma propre histoire, puisque j'ai vécu ce que Anne a vécu, c'est-à-dire une rencontre amoureuse à 16 ans, à la fois merveilleuse et dévastatrice, et que j'ai porté avec moi comme un poids pendant 20 ans et qui a pesé sur toutes mes relations amoureuses avec les hommes. Fort heureusement, contrairement à Anne, je n'en suis pas arrivée à une situation désespérée. J'ai pu faire un travail sur cette relation et puis refaire ma vie et être aujourd'hui une maman épanouie. Mais vous avez raison, Anne est très très inspirée de ma propre vie.
Et donc, malgré tout, tout à l'heure on a parlé de Bridget Jones. Pour ma part, j'ai bien aimé le personnage de Bridget Jones, mais je trouve justement que Anne a beaucoup plus d'étoffe, a beaucoup plus de profondeur que ne peut l'avoir Bridget Jones. Donc j'aimerais que nos auditeurs sachent que c'est un personnage pour moi beaucoup plus intéressant. Et ce sont quand même des personnages qui sont très typés romans noirs, avec leur lourd passé, avec leur casserole, avec leur désespérance. Clin d'œil au roman noir ou c'est les personnages qui vous intéressent ?
Clin d'œil au roman noir, je suis grande admiratrice de Dashiell Hammett qui a vraiment habité mes lectures de jeune fille. Il y avait aussi Maurice Leblanc. J'aime le romantisme dans le policier. Il n'y a que là que je le trouve aussi flambant et intéressant et sensuel. Sinon, les livres romantiques m'exaspèrent. Mais oui, absolument, j'aime aussi Jim Harrison et ses hommes à la fois gourmand et viril et un peu passé comme un papier peint. Donc c'est tout ça que j'ai voulu aussi distiller dans ce roman.
Et donc Anne part à San Francisco à la recherche de son amour perdu, Daniel. Ils vont rencontrer Bill. Ils vont faire une espèce de contrat parce que c'est quand même un roman noir avec une enquête. Bill va l'aider à essayer de retrouver la trace de Daniel. On va pas trop en dire plus parce que si la première partie nous parle de ces deux personnages, ensuite il y a vraiment une enquête et un suspense qui nous happe et qui nous donne envie de tourner les pages les unes après les autres. Et le contrat, c'est que Anne va concocter un merveilleux festin de Noël pour Bill. Alors c'est un festin absolument fantastique. Et là où je reviens à mon erreur du début, c'est que les recettes sont à la fin du livre. Elles ont été concoctées par Éric Léauté, qui est le chef de la chaîne Cuisine TV, donc.
Oui, et vous le voyez également, je crois, dans votre secteur sur Télé Monte Carlo. Il me semble qu'il fait des interventions.
Oui, c'est vrai que c'est dans notre secteur, Monaco, oui.
Eric, je l'ai effectivement rencontré à l'époque du lancement de Cuisine TV. C'est le premier chef que je côtoyais de ma vie. Avant, j'ai eu la chance de rencontrer Bernard Loiseau, qui a été aussi un grand moment dans ma carrière de journaliste. Eric est une personne absolument charmante, qui a beaucoup d'humour, qui est passionnée par les livres. Et quand je lui ai parlé de ce projet, et je lui ai demandé s'il se sentait capable d'écrire le festin de Bill et Dan, et il s'est attelé à la tâche. Et donc toutes ces recettes sont originales à la base et m'ont été fournies, offertes, devrais-je dire, par Eric.
Oui, offertes, puisque à la fin du livre, on trouve vraiment toutes les recettes bien détaillées. Alors simplement pour donner l'eau à la bouche, foie gras en coco. En cocotte, aux figues et aux raisins. Et
ça, alors, c'est facile à faire.
Celle qui me met vraiment, il va falloir que je le fasse, je n'ai pas encore eu le temps, mais le cappuccino de cèpe aux noix de Saint-Jacques me semble des plus délectables.
Oui, et celle-ci non plus n'est pas trop compliquée.
Voilà.
Il y en a d'autres qui sont ardues,
oui,
que
oui,
j'essaie même
passe
pas.
Le plat principal quand même, elle passe beaucoup d'heures. Et on sent que vous êtes vraiment régalée de mettre des mots sur les mets. C'est vraiment... vous aimez cuisiner, cela va sans dire, mais vraiment, la description de cette préparation de repas, c'est très très sensuel. Vous avez vraiment trouvé les phrases qui nous donnent l'eau à la bouche.
J'avais en tête le souvenir de ce film magnifique, Le Festin de Babette.
Oui.
Et je me suis dit, si j'arrive, au travers de ces lignes, à faire passer quelques saveurs, quelques moiteurs, le côté buée d'une cuisine, si on sent la chaleur du four et les mets qui comme ça dégagent des parfums, j'aurais réussi ces quelques pages.
Voilà. Eh bien, en tout cas, pour moi, c'est une parfaite réussite. Tout le livre est d'ailleurs une très jolie réussite. Et justement, dans la cuisine, il y a aussi cette sensualité d'avoir ces deux personnages, Bill et Anne, qui petit à petit, je dirais, c'est pas les mains dans la farine, mais en gros, se rapprochent petit à petit. Et donc, après, l'histoire va continuer. Vous aimez à manipuler le destin des gens. C'est un petit peu pour ça que vous écrivez, parce qu'on sent vraiment que là, vous tirez les ficelles.
C'est absolument le contraire, Corinne. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, et c'est pas la première fois, sur Dernier Parking avant la plage, j'ai vécu la même chose. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, je maîtrise mes personnages, j'ai fait des portraits, j'ai préparé de longues notes sur chacun d'entre eux, je les ai habillés dans le catalogue de la Redoute, enfin, j'ai trouvé à chaque fois comment les concrétiser, mais il y a un moment, tout m'échappe. C'est-à-dire que je ne maîtrise plus leurs relations. Par rapport à ce qui était écrit, Anne va décider qu'elle ne veut pas être avec un tel ou qu'elle ne veut pas faire ça. Et Bill ne va pas être aussi sympathique que je voulais. Et puis tout à coup, il va se passer quelque chose, parce que j'ai écrit ce roman en temps réel, c'est-à-dire qu'il se passe entre septembre 2008 et janvier 2009. Et j'étais en train d'écrire à la fin de la préparation du repas, nous étions le 24 décembre. Et il s'est passé un fait divers, extraordinaire et épouvantable à Los Angeles à ce moment-là, que je n'ai pas pu faire autrement que d'intégrer dans mon récit. Et évidemment, mes personnages sont liés au destin de ce fait divers. Et ça, c'était pas prévu. Donc, vous voyez, je ne maîtrise rien. C'est aussi l'actualité, c'est aussi le hasard et l'instant qui font l'écriture.
Et je dirais aussi que c'est une des caractéristiques du roman noir, c'est d'être parfaitement ancré dans le réel. Et dans la réalité actuelle de tout ce qui peut se passer, que ce soit dans les Vosges, on a eu des scènes dans les Vosges, ou à San Francisco. Alors j'ai ouï dire, et plutôt j'ai lu, qu'au départ vous aviez pensé baser une grande partie du roman dans les Vosges, et là tout d'un coup on se retrouve à San Francisco. C'est quand même un sacré voyage. Quels sont, pourquoi, enfin San Francisco est une ville géniale, mais pourquoi le choix de cette ville?
C'est une suggestion de mon mari, qui lui avait eu la chance de vivre et de bien connaître la ville. Il m'a dit, il faut absolument que tu connaisses San Francisco, ce serait un décor magnifique pour ton livre. Et donc je l'ai suivi sur cette idée, et il avait absolument raison. J'ai découvert un endroit magique, surtout la baie de San Francisco, qui est une évocation aussi de grands films que j'aime, comme les films d'Hitchcock, Vertigo, Basic Instinct, qui ont été tournés donc dans cette région, Les Oiseaux d'Hitchcock. Donc ça a été une découverte, un enchantement et un enrichissement absolument incontournable du roman.
Mais c'est vrai que si Pierre Pelot sait très bien faire des romans noirs dans les Vosges, c'est vrai que San Francisco paraît être un lieu idéal pour un polar. Alors, vous avez évoqué, c'était une de mes dernières questions, le livre Dans l'œil noir du corbeau, Les oiseaux, Hitchcock. C'est vrai que pour moi, le personnage d'Anne, j'ai souvent vu la tête de l'héroïne de Vertigo. Il y a beaucoup de petits hommages à Hitchcock. Vous aimez particulièrement ce cinéma, ce polar, enfin ces films noirs?
Oui, parce que j'ai par exemple, bon, un des premiers souvenirs de cinéma, donc c'est un film que j'ai vu à la télé en noir et blanc, étant petite, on venait d'acquérir la télévision, je pense que je devais avoir 5 ans, 5, 6 ans, et j'ai vu Spellbound, la maison du docteur Edwards. Et ce film, dans lequel Ingrid Bergman essaie désespérément de sauver Anthony Perkins contre ses démons et son inconscient, ça a été aussi quelque chose de très fort pour la petite fille que j'étais.
Oui, c'est ce que j'allais dire, ça peut être très inquiétant.
J'ai passé mon temps à tomber amoureuse de garçons un peu maladifs.
Remarquez, avec les films d'Hitchcock, c'est bien, parce que vous avez parlé d'Anthony Perkins, celui aussi, il est pas mal. Dans le genre.
Voilà, tout à fait. Donc chez Hitchcock, j'ai beaucoup de filiation, il y a beaucoup il aime les blondes mystérieuses. Je trouve effectivement que ces femmes froides sont les plus sensuelles, à contrario du cinéma, que jamais les femmes n'ont été aussi belles au cinéma que dans les films d'Hitchcock. Et les hommes, par exemple Cary Grant dans L'amour aux trousses, qui est mon film préféré.
Ah là là, mon héros.
C'est quand même l'archétype, ouais, du héros, vous êtes d'accord avec moi?
Ah oui, c'est ça, à jamais.
À jamais.
Ah oui. Et donc, j'aimerais que vous nous contiez l'histoire de ces fameux corbeaux, puisque le titre Dans l'œil noir du corbeau, la première page, on tombe. Alors ça a été c'était mon premier enthousiasme, parce que c'est un souvenir d'enfance. La recette de la soupe au corbeau, c'est quelque chose que j'avais eu dans un de mes livres à l'école primaire. Pas tout à fait la même, mais un petit peu ça.
Oui.
Et puis, régulièrement, des corbeaux, des couples de corbeaux viennent se poser dans votre histoire. Vous disiez tout à l'heure les hasards qui vous ont fait continuer l'histoire. Là aussi, un hasard, je crois.
Oui. Nous étions donc partis 15 jours à San Francisco en famille pour me permettre de faire des repérages pour le roman. Donc on avait loué une voiture, le bébé était à l'arrière et régulièrement on faisait des arrêts biberons. Et en parcourant Shoreline Highway, qui est la route qui relie Mill Valley à Stinson Beach, où se passent beaucoup de choses dans le récit, on est en flanc de falaise. On longe la mer, c'est absolument magnifique. Ça évoque peut-être la côte sauvage en Normandie. Et à un moment, il y a un terre-plein. Et je dis à mon mari, arrête-toi, parce que je pense que là, j'ai ma scène de crime. Donc on descend, on va regarder, on se penche. Effectivement, il y avait tout ce qu'il fallait, le terre-plein, le contrebas, les buissons. Et puis j'entends des croassements derrière moi. Et je me retourne et je vois deux corbeaux, mais qui étaient à 3 mètres sur une butte et qui étaient là, qui nous regardaient, le bec dans le vent. Et j'ai trouvé ça fantastique. Et ils sont restés là pendant tout le temps de mon repérage. Je les ai pris en photo et je me suis dit, je vais en faire quelque chose de ces corbeaux, parce que c'est trop extraordinaire, cette rencontre entre les corbeaux, qui pour moi sont les oiseaux d'Hitchcock, voilà. San Francisco, la scène de crime. Donc ces corbeaux, finalement, non seulement sont dans le roman, sont sur la scène de crime, mais en plus ont donné une signification au titre, et il y a tout un sens, toute une histoire qui est développée autour de
ces... On les sent en filigrane, en vol libre au-dessus un petit peu de vos pages, comme ça. Dernière question, j'espère que vous avez le temps de commencer un autre roman.
Non. Pour l'instant, non.
Non, beaucoup trop d'occupations.
J'aimerais beaucoup écrire une suite, parce que je suis tombée passionnément, non pas amoureuse, mais... Bill, j'aurais aimé que cet homme existe, que ce personnage existe, donc j'ai envie de, entre guillemets, de le continuer. Et donc j'ai imaginé d'étranges cadavres qu'on retrouve sur les secteurs, là où il habite, et une disparition d'un de mes personnages préférés du roman, dont on n'a pas parlé, qui est Donovan Western.
Ah oui,
cet ermite illuminé.
Voilà, oui, effectivement. Voilà, malheureusement, on n'a pas eu le temps de parler de tous les personnages,
secondaires,
mais je vais inciter tous nos auditeurs à les découvrir à la lecture du roman. Donc je vais redire le titre, Dans l'œil noir du corbeau, l'éditeur, au Cherche-Midi. Merci beaucoup Sophie Loubière de nous avoir rejoint et de nous avoir si bien parlé de vos personnages et de cette histoire. Merci, au revoir.
Merci beaucoup Corinne, au revoir.
18h30 sur Agora FM, bon début.